La vie de nos communes, mettre en lumière les différentes communes de CCA, Concarneau, Cornouaille Agglomération, leurs particularités, leurs habitants, leurs événements et initiatives locales. Une émission mensuelle sur Radio Harmonie Cornouaille, animée par Nadine Poadi.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Harmonie pour un nouveau voyage au cœur de nos plus belles communes. Aujourd'hui, eh bien, nous allons poser nos valises à Pont-Aven, cette charmante petite ville nichée en Bretagne Sud, dans le Finistère. Pont-Aven, vous en avez sûrement entendu parler. Ses ruelles pittoresques, ses moulins, ses fameuses galettes, mais surtout son incroyable histoire en tant que source d'inspiration pour les artistes du monde entier, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Paul Gauguin. Préparez-vous donc à découvrir cette commune en compagnie du maire de Pont-Aven, Christian Dautel. Bonjour.
Bien, mais écoutez, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Harmonique. Radio Harmonie. Harmonie, oh là là, Radio Harmonie, bien sûr. Écoutez, Pont-Aven, fête cette année, et ça c'est important, fête ses 70 ans d'une fusion qui a réuni deux communes après la guerre, Pont-Aven et Nizon. Et cette fusion dit quelque chose de l'histoire de Pont-Aven, parce que... Pont-Aven a été créé autour du commerce de cabotage sur la Veine, et en particulier pour le transport du granit, car les carrières de granit autour de Pont-Aven avaient un matériau très, très travaillable, facilement travaillable, et qui était très apprécié des constructeurs.
Donc, en quelque sorte, cette fusion entre Pont-Aven et Nizon constitue peut-être une caractéristique de la ville de Pont-Aven.
Mais absolument, c'est pour ça que je renvoie à cet événement important, puisqu'il s'agissait à la fois de réunir une ville de commerçants, une petite ville de commerçants qui était Pont-Aven, mais qui était très étriquée sur son territoire, puisqu'il y avait un peu plus d'une centaine d'hectares sur le territoire de la commune, ce qui représentait pas grand-chose. Et puis Nizon, par contre, Nizon, c'était une très grande commune, à peu près presque 2000 hectares, et qui allait jusqu'au quai de Pont-Aven. Toute la partie de Quérempercheque, toute la partie du coteau côté ouest, est à Nizon. Donc Nizon allait jusqu'à la Veine, et rive gauche de la Veine, et puis tout le centre de Pont-Aven, c'était Pont-Aven. Donc Pont-Aven était cerné par Nizon, n'avait plus aucune capacité de s'étendre, et il a fallu cette fusion pour qu'on retrouve un territoire qui permette son développement. Et surtout, ce qui est important, c'est que Nizon était une commune rurale, uniquement tournée autour de l'agriculture, Pont-Aven avec le commerce. Et donc, c'est ce qui caractérise Pont-Aven. C'est à la fois une ville et aussi une petite ville rurale. Et ça la caractérise très bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce caractère un peu rural et commerçant avait fasciné les peintres qui sont arrivés au milieu du 19e. Ils trouvaient là une hôtellerie, un début d'hôtellerie touristique. Et puis, en même temps, ils étaient fascinés par ces paysages ruraux, par la vie à Nizon, ce monde qui pour eux était un petit peu exotique, hein, puisque c'était aussi ce qu'ils recherchaient. Et donc la Bretagne correspondait un peu à leur idéal romantique, entre guillemets. Et donc Pont-Aven avait toutes ces caractéristiques, mais en plus, c'était une ville avec une petite infrastructure touristique. Et il fallait bien qu'ils soient accueillis et puissent vivre en communauté autour de Pont-Aven. Donc je dirais que les 70 ans que nous fêtons cette année correspondent très bien à l'identité, à l'ADN de Pont-Aven. Ville de commerçants, ville avec une structure urbaine, des places, des rues, et puis en même temps une commune rurale avec tout le charme de ces paysages vallonnés autour de la Veine.
Pour ceux qui se joignent à nous, je suis avec Christian Dautel, il est le maire de Pont-Aven, il est également l'élu communautaire en charge de la culture. Nous parlons donc de la commune de Pont-Aven. Christian Dautel, est-ce qu'il y a des événements ou des anecdotes historiques marquants qui sont liées à la commune de Pont-Aven que vous pouvez nous raconter?
Oh oui, bah alors là, des histoires, il n'en manque pas, hein, puisque c'est une commune qui se caractérise aussi par une population, je dirais, très originale, qui est capable de s'exprimer toujours. Et donc, les personnages de Pont-Aven constituent en soi une sorte de petit théâtre extraordinaire. Et on retrouve là des figures, à la fois les figures de l'agriculteur, parfois qui vit dans l'autarcie de sa ferme et de son entourage, mais aussi des figures plus citadines, de braconneurs. On se souvient, on peut en parler aujourd'hui, du marquis, le marquis qui était ce grand pêcheur au sens propre, hein, qui pêchait le saumon, puisqu'à l'époque, la rivière regorgeait de saumon. Fin août, on les voyait remonter la Veine, sautant, et c'était un spectacle tout à fait extraordinaire. Et il y avait ce marquis qui allait dans les villas, qui bordaient la Veine, leur demandant, par exemple, de pouvoir pêcher, évidemment, comme braconnier. Et chaque habitant avait le droit à son saumon tous les mois, pêché par le marquis. Et d'ailleurs, cette histoire du saumon est importante, puisque quand nous avons créé, lors des précédents mandats, à l'initiative d'André Potin, qui est aussi un grand personnage de Pont-Aven, qui a vraiment contribué au rayonnement de cette ville, en créant, entre autres, le passage Xavier Graal, qui, entre Noël et le 1er de l'an, a accueilli Pont-Aven en lumière. Et quand ce passage a été créé sur la Veine, hein, sur les bords de la Veine, sur les biefs des moulins, eh bien, les habitants s'y opposaient. Parce que chaque maison qui avait son jardin sur la Veine était aussi un endroit où on pouvait braconner tranquille, au regard de personne. Et donc les lavoirs, qui est une des caractéristiques, ce petit patrimoine ordinaire qui longe tous les fonds de jardin, était aussi le lieu un peu caché pour pouvoir pêcher tranquillement. Donc il a fallu convaincre tous ces habitants de l'intérêt du passage Xavier Graal, donc comme quoi le saumon occupait une place très importante. Malheureusement, aujourd'hui, le saumon est en disparition, hein, pas lié aux rivières, mais plutôt en amont, du côté des océans. Et c'est vrai que nous avons, lors de mes voeux, rendu hommage à l'association AAPPMA, qui est une association qui nettoie chaque année les rivières avec un ensemble d'habitants. On leur a rendu hommage pour ce travail formidable qu'ils mènent. Mais malheureusement, le constat est là. Il n'y a plus de saumon dans la Veine, ou très peu, et c'est une forme de fin d'une histoire de Pont-Aven liée au saumon. Alors évidemment, on n'attend pas ce type d'histoire quand on parle de Pont-Aven, on pense plutôt aux peintres, bien sûr, qui arrivent d'une manière massive à partir de 1870, un tout petit peu avant d'ailleurs, avec un Américain, hein, qui est le premier à avoir loué une maison, un petit manoir qui avait été acheté par un boucher de l'époque, en plein centre de Pont-Aven, les Cévins, et dans ce manoir, il accueillait le premier peintre, qui était un peintre américain de l'époque, et qui fut un peu à l'origine de la venue à Pont-Aven d'Émile Bernard, qui lui-même mobilisa tout un ensemble de peintres parisiens, dont Gauguin, qu'il connaissait vaguement, et qui fait son premier voyage, je crois, en 1879, comme ça, à Pont-Aven. Et là se crée une communauté absolument extraordinaire de gens qui savaient faire la fête, qui savaient aussi travailler, qui savaient aussi se joindre à la population, qui était fait de marins, de commerçants, de gens d'ailleurs qui parlaient français, puisque la caractéristique de Pont-Aven, c'est qu'on n'a jamais parlé vraiment breton à Pont-Aven, vu que c'était une population un peu hétéroclite qui venait de différentes régions. On parlait breton, évidemment, à Nison, bien évidemment, à 50 mètres, puisque Nison entourait Pont-Aven. Mais Pont-Aven, c'était une sorte de petite ville franche. Et c'est vrai que les peintres y ont trouvé un air de liberté. On y buvait pas trop cher, on se logeait pas trop cher. Et puis, toute cette population de fêtards trouvait là, évidemment, de quoi nourrir leur imaginaire. Alors, des anecdotes. Il y en a plein. D'ailleurs, il y a un très beau livre qui est sorti l'an dernier de Nono et de Paul Burel. Nono, vous connaissez tous Nono, dessinateur du Télégramme, des caricatures. Et puis Paul Burel, qui est un ancien journaliste de Ouest France, lui-même fils de paysan de Pont-Aven. Et ils ont écrit ces histoires autour de Pont-Aven qui sont absolument savoureuses et que je recommande aux auditeurs. Après, des histoires à Pont-Aven, évidemment, il y en a un certain nombre au-delà de la peinture, au-delà du saumon, qui sont aussi des histoires d'entrepreneurs. Pont-Aven est une ville d'entreprise. Et ce qui la caractérise, c'est que les premiers entrepreneurs de Pont-Aven étaient des entrepreneurs, c'est-à-dire des femmes. Et c'est pour ça que quand nous avons élaboré notre dossier pour recevoir le label des petites cités de caractère, on avait intitulé notre dossier « Pont-Aven, la bonne hôtesse ». La bonne hôtesse parce que les hôtesses, celles qui ont créé les premiers hôtels à Pont-Aven, étaient des femmes. Julia Guillou, etc. Donc on avait là un substrat bien avant la révolution et l'émancipation. On avait là des femmes tout à fait extraordinaires et qui ont construit Pont-Aven, qui ont construit les hôtels qui constituent une sorte de socle urbain important à Pont-Aven. Et ça continue. Par exemple, aujourd'hui, évidemment, c'est pas une entreprise à proprement parler de Pont-Aven. L'usine existe à Pont-Aven, mais aujourd'hui, c'est une grande société, Traumad, et aussi dirigée par une femme, Aurélie Tacard, qui est une femme tout à fait formidable. Donc, ce qui caractérise Pont-Aven, c'est que les entreprises ici, elles ont été créées par des femmes. Et on retrouve aujourd'hui ce rôle important dans le commerce. Par exemple, beaucoup de commerces sont tenus par des femmes. Et je pense qu'elles jouent un rôle tout à fait essentiel dans la sociologie de notre petite ville.
Donc, vous l'avez dit, hein, Pont-Aven, c'est aussi les artistes. Et c'est aussi les galettes de Pont-Aven, les moulins. Un petit mot sur les moulins et puis les galettes de Pont-Aven. Vous avez évoqué tout à l'heure Traumad.
Bah, les moulins, alors c'était assez formidable. Vous savez, on disait souvent Pont-Aven, 14 moulins, 14 maisons, 14 moulins. Enfin, comme quoi chaque maison était un petit peu un moulin. Alors c'est une histoire assez intelligente aussi, puisque les meuniers s'installent sur une rivière assez ardente qui permettait donc de faire fonctionner les moulins. Mais surtout, on a eu cette intelligence de comprendre qu'il y avait là une agriculture autour de Pont-Aven. Autour de l'agriculture du grain. Donc il y avait du grain, donc on a installé des moulins pour moudre le grain, il y avait de quoi le transporter par la Veyne pour aller vers d'autres ports, d'autres destinations. Et puis, il y a aussi l'arrivée du chemin de fer hein, à la fin du 19e, qui permet aussi de transporter les marchandises. Le grain, évidemment, la farine joue un rôle essentiel. Et ce n'est pas par hasard que les marchands de galettes s'installent. Il y avait là du grain, de la farine à profusion. Il y avait autour de Pont-Aven une agriculture qui fabriquait du beurre. Des œufs. Donc tout était sur place. On parle de circuit court. Le circuit court, et ben, ici à Pont-Aven, ils existent dès le début du siècle, puisque la ressource était là et des fabricants de galettes ont eu cette idée ben, de pouvoir se procurer à très bas prix à l'époque des ressources et de fabriquer des galettes. Donc les moulins jouent un rôle essentiel. Les moulins aussi ont joué un rôle dans la régulation de la Veyne, puisque tout un système de biefs, un système d'écluses, ont permis de réguler cette rivière qui, encore une fois, était une rivière ardente, qui parfois procurait des inondations de la ville. Donc les moulins ont joué aussi un rôle régulateur de ce ruisseau qui, au moment de la saison des pluies, est un ruisseau très impressionnant. Alors il y avait aussi, à travers les ruisseaux, ces chaos, ces énormes blocs de pierre qui aussi régulaient, d'une certaine manière, faisaient des petits barrages. Et les moulins se sont intelligemment, se sont installés en tenant compte de ces blocs de granit, de cette régulation de la rivière. Et je dois dire que aujourd'hui encore, on en voit un certain nombre dans le centre-ville. Beaucoup sont en ruine, malheureusement, ou ont disparu. Le dernier en date, le moulin du Plessis, il restait quelques ruines de la maison du meunier dans laquelle on a inséré un abri de chauves-souris. Récemment, petit bâtiment tout à fait formidable, à la fois en terre crue, et qui permet aujourd'hui d'être un refuge pour des chauves-souris très rares qui s'appellent des grands rhinolophes européens et qui occupaient une usine à l'entrée de Pont-Aven que nous avons décidé de déconstruire aujourd'hui. Et la condition était le relogement de ces animaux classés, évidemment, sous haute surveillance de la DDTM. Et je trouve ça formidable. Donc le moulin du Plessis, l'ex-vestige du moulin du Plessis, est aujourd'hui l'abri pour une autre mission de nos sociétés, qui est la préservation de la biodiversité et de l'environnement.
Sur Radio Harmonie, Cornouailles, nous avons déposé nos valises cette semaine à Pont-Aven. Je suis avec Christian Doutel, qui est le maire de Pont-Aven. Christian Doutel, est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives pour encourager ce développement économique local que vous avez évoqué?
Alors, c'est vrai que Pont-Aven a une image d'une ville touristique. Alors, c'est pas non plus l'hypertourisme, hein, il faut pas, ça c'est une terminologie que je refute, hein, mais effectivement, il y a une très grande activité touristique pendant la haute saison, en juillet et août, et c'est ce qui caractérise souvent Pont-Aven. Mais Pont-Aven, ce n'est pas que ça. Pont-Aven, c'est aussi une population qui vit à l'année, une population d'ailleurs avec des revenus modestes, contrairement à l'image que porte Pont-Aven. D'ailleurs, récemment a été publié dans les journaux locaux le résultat d'un sondage et qui montre que Pont-Aven est la ville dans l'agglomération de Concarneau la plus pauvre, c'est-à-dire celle où les petits salaires sont les plus nombreux par rapport à la population. Alors ça s'explique parce que c'est une population âgée, même si aujourd'hui on mène des programmes pour renouveler cette population, une population âgée, population ouvrière, parce qu'il ne faut pas oublier que Pont-Aven, jusqu'aux années 70 et 80, était une ville ouvrière avec des conserveries. Il y avait 5 conserveries à Pont-Aven. Et la dernière, c'est la friche de la Belle Angèle, qui est en déconstruction, puisque nous sommes sur un programme de reconversion de cette friche en logement, en zone d'activité. Donc effectivement, le passé nous sert pour construire le futur, et en tenant compte d'une population plutôt ouvrière, plutôt de petits employés ou de retraités. Et aujourd'hui, évidemment, nous avons à cœur d'abord de maintenir cette population, parce que c'est ce qui fait le cœur de Pont-Aven. Pont-Aven est une ville populaire. Et puis d'autre part, nous sommes sur un certain nombre de programmes de logement pour pouvoir attirer de nouveaux ménages. Là, nous venons d'achever un lotissement qui s'appelle le lotissement de Barzaz-Breiz, avec plus de 64 logements. Il y a une centaine de logements qui sortiront d'ici 2026. Nous avons d'autres programmes de logements à venir, et à chaque fois sur des zones déjà artificialisées. Car nous sommes, nous, Pont-Aven et notre équipe au conseil municipal, des fervents défenseurs du ZAN, de la zéro artificialisation nette des sols, car nous pensons qu'aujourd'hui, on est en fin de cette histoire où le modèle pavillonnaire créait des zones de périurbanisation à l'entrée des villes, qui sont une catastrophe à la fois écologique, catastrophe économique et catastrophe esthétique. Donc tous les programmes que nous menons, nous le faisons sur des bâtis existants ou sur des terrains déjà artificialisés. Évidemment, pas strictement, il y a encore quelques opérations sur des terrains proches du centre-ville qui seront également urbanisés, mais nous faisons très attention à cette urbanisation. Aujourd'hui, nous avons donc plus d'une centaine de logements qui vont sortir, avec des logements d'accession à la propriété, primo-accédant, donc avec des tout petits prix, puisque je crois que dans le secteur de Concarneau, on est la commune où nous proposons des lots fonciers les moins chers de l'agglo. Donc Pont-Aven avec ses logements. Et évidemment, s'il y a des logements, il faut aussi des équipements. Donc nous nous sommes occupés dès le début du mandat à mettre en place un certain nombre d'équipements et nous les souhaitions en centre-ville, c'est-à-dire le lieu où les gens se croisent, les lieux de socialisation, et on y tenait. Donc dans l'ancienne poste de Pont-Aven, on y a installé la maison de santé qui aujourd'hui accueille 2 médecins, un troisième à venir, et 2 dentistes, qui est rare, avec un troisième à venir, maison de santé. Nous avons déplacé l'ancien musée de Pont-Aven deviendra la médiathèque et l'office de tourisme, avec un projet très intéressant d'hybridation à la fois de l'office de tourisme et de la médiathèque, en considérant qu'un habitant de Pont-Aven pourra croiser un visiteur et un visiteur croiser les habitants de Pont-Aven. Deuxième opération importante. Troisième opération, l'extension de l'école. Une école à Nizon qui regroupe les enfants de Nizon et de Pont-Aven. Nous allons construire une nouvelle cantine. Nous allons réaménager le périscolaire, donc la santé, la culture, l'éducation. Voilà nos 3 programmes qui sortiront, plus un certain nombre, plus une salle municipale, plus le déplacement de la mairie qui prendra lieu et place de l'ancienne gare de Pont-Aven. Voilà les programmes de notre mandat, ils sont nombreux. Nous avons aussi créé un parc avec la LPO, de la Ligue Protection des Oiseaux, à Pontic-Malo, qui est une réserve à la fois de la biodiversité, mais aussi un lieu pour la jeunesse, près de Place aux Jeunes, qui est notre maison d'accueil de la jeunesse, avec un city park, avec une araignée, ce qu'on appelle l'araignée, la pyramide, les jeux de cordes, un parc de l'éco-parc avec des moutons, une promenade dans notre zone LPO pour découvrir la nature, et puis enfin un chemin que nous avons réexhumé d'un ancien chemin creux et qui fera rejoindre Pontic-Malo, ce parc urbain, le trait d'union entre Pont-Aven et Nizon, et la place des Grands Chênes de Nizon. Donc vous voyez, beaucoup de programmes, à la fois du logement, de l'équipement et également de l'aménagement pour préserver la biodiversité et l'environnement.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect éducatif. C'est une des caractéristiques aussi de la commune de Pont-Aven.
Oui, alors sur le plan éducatif, Pont-Aven est une commune tout à fait remarquable puisque nous avons 2 écoles primaires, une publique, et l'école Saint-Joseph, une école privée gérée par une association de parents. Et puis nous avons aussi 2 collèges, un collège public et un collège privé, Parcmour, qui dépend du groupe de Saint-Joseph, à Concarneau, avec l'école également de Tréguin. Donc nous avons 2 écoles élémentaires, 2 collèges, et les écoles se sont fait remarquer par une attractivité importante. C'est pour ça que l'école publique, nous sommes dans une phase de réhabilitation de l'école publique, et l'école privée, qui est gérée par une association de parents, vient également de faire des travaux du fait de son développement. On a 86 élèves en l'école privée, donc Saint-Joseph, et nous avons 126 écoles à l'école publique. Par contre, au collège, qui dépend du conseil départemental, on a 1 collège public, tout à fait remarquable, avec des résultats qui ont été dans les meilleurs au brevet en 2023-2024. Et 1 collège privé, Parcmour, dans un parc qui donne sur la Veyne, dans un lieu absolument extraordinaire. Donc on a là vraiment un dispositif éducatif de très haut niveau. Et alors je fais la remarque suivante, c'est que la commune considère qu'un élève de Pont-Aven, qu'il soit dans le privé ou dans le public, doit recevoir exactement le même régime d'accompagnement. Alors évidemment, il y a la partie tout à fait liée au droit juridique, puisque un élève est subventionné de la même manière, mais l'accompagnement, et nous sommes très sensibles à l'accompagnement de ces écoles, et par exemple, les repas qui sont fabriqués au collège via le conseil départemental sont livrés à l'école élémentaire et sont ouverts autant aux élèves du privé et du public. Et d'ailleurs, l'extension de l'école que nous faisons de l'école publique, avec une nouvelle cantine et un nouveau réfectoire, eh bien, sont c'est une structure qui accueillera autant les élèves de l'école publique que de l'école privée. D'ailleurs, l'urbanisme fera aussi en sorte, puisque les deux écoles sont séparées d'une centaine de mètres, de prévoir tout un lieu de cheminement pour les élèves, sécurisé, bien évidemment, de l'école jusqu'à la nouvelle cantine.
On voit que la commune de Pont-Aven est en action pour mettre à disposition des habitants tous ces services. Hein, vous avez évoqué la santé, l'école, mais aussi la protection de l'environnement, la culture, bien sûr. Je suis avec Christian Dautel, qui est le maire de Pont-Aven, et sur le plan communautaire, il est en charge de la culture. Christian Dautel, on va parler de vous maintenant. Quelques questions personnelles. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel? Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir maire de cette belle commune de Pont-Aven?
Ben écoutez, moi je suis né à Guérande, beaucoup plus bas, hein, la Bretagne assez marche. Hein, Guérande a accueilli le duc de Bretagne, donc c'est quand même une ville très bretonne, puisque Guérande veut dire Gwenran, donc le pays blanc, avec les marais salants, le sel, etc. Et puis, très jeune, j'ai été évidemment dans les écoles privées, hein, religieuses, à Redon, Saint-Sauveur de Redon, qui a été mon lieu où finalement, ce lieu m'a mis en lien avec ce que je pourrais appeler, puisque Guérande, on était dans un lieu un peu touristique, mais la Bretagne, pour moi, elle a commencé dans mon école de Redon, où j'ai découvert un monde absolument formidable. J'ai commencé à faire du collectage, d'ailleurs très jeune, à 15 ans. J'allais enregistrer avec ce que les gens appelaient le perroquet, mon petit magnétophone Sony de l'époque. J'allais enregistrer les contes, les chansons. Et d'ailleurs, je suis ensuite devenu chanteur breton dans les fest-noz. Dans les années 70 et 80, j'ai écumé avec mes camarades Gilbert Bourdin, malheureusement décédé il y a 3 ans maintenant, et Éric Marchand, fameux chanteur breton, toujours en activité. Nous avions formé un trio et on passait nos week-ends à chanter dans les fest-noz, pas simplement du pays gallo, mais également du pays breton. Donc la Bretagne a toujours été pour moi une passion et véritablement le lieu où mon imaginaire et mon amour des paysages, mais aussi des gens, a pu s'ancrer. Alors la découverte de Pont-Aven, c'était une découverte absolument formidable, une petite promenade complètement banale en 1985, alors que j'étais à cette époque-là architecte, j'avais commencé à m'installer justement du côté de Guérande, j'arrivais de Paris, je découvre Pont-Aven et je dois dire que c'est une sorte de coup de foudre, je le dis mais avec beaucoup de sincérité et voilà, ça a été un coup de foudre à la fois la découverte de ce pivot-là en 85 et c'était pas tout à fait Pont-Aven d'aujourd'hui, il y avait encore des personnages qui était à profusion à Pont-Aven. Et c'est vrai que cette découverte entre une ville, des paysages et ces gens tout à fait singuliers m'a vraiment fasciné. Donc j'ai très rapidement voulu habiter à Pont-Aven, y installer ma première agence d'architecture en 1985. Et puis très vite, j'ai jamais été déçu. En réalité, j'ai jamais été déçu. Alors j'ai passé après une carrière pendant 30 ans... pas toujours à Pont-Aven, mais j'ai toujours gardé ma maison à Pont-Aven, en tous les cas une maison, mes enfants sont nés ici, et j'ai toujours voté à Pont-Aven, donc j'étais citoyen de Pont-Aven, mais j'ai travaillé pour le ministère de la Culture dans beaucoup d'endroits, puisque j'ai été directeur de plusieurs écoles des Beaux-Arts, hein, celle de Quimper, celle d'Angers, celle de Tours, Angers-le-Mans, puisqu'on avait créé le premier EPCC en France, à Valence également. Et puis enfin, à l'école d'architecture de Nantes, que j'ai dirigée pendant une petite dizaine d'années. Donc voilà un parcours, mais avec les retours réguliers, toutes les semaines ou tous les 15 jours, à Pont-Aven, qui était vraiment le lieu que j'ai choisi, le berceau que j'ai choisi. Je dirais que j'ai choisi Pont-Aven. Vous savez, il y a une expression américaine qui dit « je suis indien » ou « je suis ci » ou « je suis ça » by choice. Eh ben, je pourrais dire que je suis pont-aveniste by choice. C'est un vrai choix et je crois que c'est important de choisir son lieu. Ce n'est pas forcément lié à la naissance, mais c'est lié à ce qui nous attire dans un lieu qui réunit des gens et des paysages.
Et qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans votre travail, en tant que maire de Pont-Aven?
Alors, il y a deux choses importantes. La première, c'est d'aimer les gens. Un rôle de maire, c'est celui qui va vers les autres, qui se rend disponible pour les écouter, souvent pour des difficultés, parce que, vous savez, la réalité, c'est que beaucoup de gens sont dans des grandes difficultés. Donc, il y a cette capacité d'écoute et d'aller vers les autres, d'aimer les gens, première chose. Puis la deuxième chose, c'est que moi, je n'aime pas seulement les gens, j'aime aussi faire des projets pour les gens. Et je crois que la deuxième qualité que doit avoir un maire, c'est aussi de se projeter, de voir l'avenir et de proposer une trajectoire à nos concitoyens, une trajectoire qui doit réunir le sens du bien commun, mais qui doit réunir aussi un certain nombre de risques pour pouvoir préfigurer la ville de demain. Donc, l'amour des autres et l'amour du projet.
En tout cas, Christian Dautel, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps et de nous parler de votre commune. Notre escapade donc à Pont-Aven touche à sa fin. Cette commune où chaque coin de rue respire l'art, la beauté. Pont-Aven nous rappelle aussi à quel point la Bretagne regorge de trésors à explorer. Entre ses paysages, ses galeries d'art, son histoire riche et ses traditions gourmandes, eh bien, Pont-Aven est une destination qui ne laisse personne indifférent. Merci d'avoir voyagé avec nous, chers auditeurs, sur Radio Harmonie Cornouailles. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure bretonne ou d'ailleurs. Christian Dautel, merci beaucoup.
Bien, écoutez, merci et merci pour votre écoute. Et puis, je salue tous les auditeurs de Radio Harmonie.
La vie de nos communes, mettre en lumière les différentes communes de CCA, Concarneau-Cornouailles Agglomération, leurs particularités, leurs habitants, leurs événements et initiatives locales. Une émission mensuelle sur Radio Harmonie Cornouailles, animée par Nadine Poadi.